VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'économie mal en point au Bénin, plusieurs sociétés pourraient ne pas survivre dans le climat actuel des affaires. Un peu plus de 5 mois après son accession à la présidence, l'homme d'affaires Patrice Talon s'évertue toujours à mettre en œuvre ses réformes institutionnelles et politiques. Écoutez le cri de cœur d'Epiphane, jeune chef d'entreprise, au micro de notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Le peuple aujourd'hui qui crie, mais c'est aussi une démarche que moi j'apprécie parce que c'est une démarche d'alerte pour dire mais attention, nous avons faim. Et c'est vrai, tu fais des réformes institutionnelles, politiques, etc. Mais nous avons faim. La nourriture, l'alimentation, c'est capital. Si vous promettez à un peuple le changement des systèmes macroéconomiques, microéconomiques, c'est bon. Mais si ce même peuple n'a pas mangé, quelle que soit la qualité des réformes que vous opérez, le peuple va toujours crier. Et donc, ce qu'il subit aujourd'hui, il devra savoir que c'est la conséquence de ce que notre pays avait toujours été.
Au Nigeria voisin, Boko Haram a posté une nouvelle vidéo sur YouTube à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la Tabaski, mais Aboubakar Shekau, son chef historique, n'apparaît pas sur cette vidéo. Qu'est-il advenu de lui? Tentative de réponse avec l'ancien recteur de l'Université de Lagos, le professeur Tundunu.
Ça m'étonnerait qu'il soit encore en vie parce qu'il est tellement fanfarant que si effectivement il était en vie, il ne manquerait pas l'occasion de venir se moquer des autorités. Et je crois que la mise en scène, je crois que cela va dans le sens de ces gens qui sont vraiment aux abois. Ils savent que ça ne va pas durer très longtemps et bien évidemment, l'armée nigériane a gagné du terrain. La fameuse forêt de Sambisar est déjà encerclée et avec les moyens technologiques qu'on connaît désormais à l'aviation nigériane, je crois que tout ceci va rentrer dans l'ordre très très prochainement.
Professeur Tundunu Amoso de l'Université de Lagos. En République démocratique du Congo, les négociateurs du dialogue national annoncent avoir trouvé un accord sur l'ordre des élections à venir dans le pays, mais sans fixer de date. Bagassi-Coura, c'est ce point qui constituait le blocage sur la tenue du dialogue national.
Oui, parce que pour l'opposition, qui avait suspendu sa participation au dialogue lundi, il y avait une divergence de vues non négociable avec la majorité sur la priorité à accordé à l'élection présidentielle. Cet accord doit donc permettre la reprise des travaux de ce forum cet après-midi. Au terme de l'accord, la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales se dérouleront exactement le même jour, a déclaré à la presse le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, co-modérateur du dialogue pour le compte de la majorité présidentielle. Les deux parties ont indiqué qu'elles laisseraient le soin à la Commission électorale nationale indépendante de fixer la date à laquelle se tiendront ces scrutins en fonction du temps nécessaire à la constitution de listes électorales fiables. Avant la suspension des travaux, la délégation de l'opposition insistait pour tenir en priorité la présidentielle. La majorité, au contraire, affirmait qu'il faudrait tenir cette élection après l'organisation de tous les autres scrutins en retard.
Les États-Unis ont menacé hier de s'efforcer d'obtenir un embargo international sur les armes contre le Soudan du Sud si Juba n'accepte pas le déploiement d'une force africaine de protection de 4000 hommes dans le pays. Mais la Russie n'est pas d'accord. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier des consultations à huis clos sur la situation au Soudan du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Libye va reprendre ses exportations de pétrole après le retour au calme dans le croissant pétrolier où les principaux terminaux avaient été pris par les autorités rivales au gouvernement d'Union. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Compagnie nationale de pétrole, la NOC. La gestion de ces quatre installations a été remise mercredi à la NOC par les forces loyales aux autorités basées dans l'Est qui les avaient conquises depuis dimanche. La NOC a affirmé qu'elle restait loyale au gouvernement d'Union nationale, la GNA, soutenue par l'ONU et qui siège à Tripoli. Elle a toutefois précisé qu'elle appliquait les instructions données par le Parlement basé dans l'Est et qui soutient les autorités parallèles. Par ailleurs, environ 235 000 migrants en Libye, prêts à partir pour l'Italie. Dès que l'occasion s'en présentera, a affirmé l'émissaire de l'ONU dans le pays, l'Allemand Martin Kobler, dans une interview aujourd'hui au quotidien La Stampa. Selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur en date de mercredi, le nombre de migrants arrivés en Italie par la Méditerranée depuis le début de l'année a atteint 128 397, en hausse donc de 5,15% par rapport à la même période l'année dernière. La fragile trêve des combats en Syrie a été prolongée de 48 heures par les Américains et les Russes, mais l'aide humanitaire promise et tant attendue n'a toujours pas été distribuée. La situation restait globalement calme ce jeudi matin pour le troisième jour consécutif, confirmant la nette décrue de la violence depuis l'entrée en vigueur de la cessation des hostilités lundi soir, mais dans la partie rebelle de la ville d'Alep, dans le nord du pays, principale concernée par l'accord, l'impatience croît chez les 250 000 habitants qui y sont assiégés depuis deux mois et qui manquent totalement de tout. En Israël, l'ex-président et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, restait dans un état grave aujourd'hui, mais son médecin personnel a fait état d'une réelle amélioration, incitant à un optimisme prudent pour cette personnalité historique respectée en Israël et à l'étranger. Monsieur Peres, âgé de 93 ans, a été victime mardi après-midi d'un accident vasculaire cérébral majeur, faisant craindre pour la vie du dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël, qui fut aussi l'un des principaux artisans des accords d'Oslo signés avec les Palestiniens dans les années 90. Après avoir boycotté les deux précédents scrutins, les Frères musulmans mènent une campagne active avant les législatives du 20 septembre en Jordanie, avec l'ambition de revenir sur la scène politique. Le score du Front de l'Action islamique, la vitrine politique des Frères, représente la principale inconnue de ce scrutin à un tour destiné à renouveler la Chambre des députés pour les quatre prochaines années. Pour bien figurer, le parti présente donc 120 candidats, dont des personnalités politiques, syndicales et tribales qui tiennent meeting un peu partout dans le pays. Les Frères musulmans traversent cependant une passe directe, délicate, affaiblie par des divisions internes et une répression des autorités qui ont fermé plusieurs de leurs bureaux dans le pays.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, présidentielle, l'ancienne secrétaire d'État Colin Powell a exprimé une opinion négative de Donald Trump et d'Hillary Clinton. En même temps, le point avec Timothée Donangmaï.
Des emails de M. Powell, piratés et publiés sur Internet, révèlent son opinion très négative tant au sujet d'Hillary Clinton que de Donald Trump. Il réserve ses mots les plus durs pour le candidat républicain qu'il a qualifié de disgrâce nationale et de paria international. Colin Powell s'est aussi plaint de Mme Clinton, lui reprochant d'avoir utilisé un serveur privé pour ses communications au département d'État plutôt que le réseau gouvernemental sécurisé. « Je n'ai jamais dit à Hillary d'avoir un serveur privé à la maison connecté à la Fondation Clinton », écrit Powell dans un email, démentant ainsi les propos de Mme Clinton selon lesquels elle a pris conseil auprès de Powell concernant l'utilisation d'un serveur privé.
Après une série de mauvaises nouvelles concernant la Fondation Clinton, c'est au tour de son adversaire Donald Trump de faire face à de nouvelles questions concernant sa fondation caritative.
L'État de New York a ouvert une enquête suite aux allégations selon lesquelles l'homme d'affaires new-yorkais n'a pas fait de contribution financière en faveur de cette fondation depuis 2008 et qu'il aurait utilisé l'argent de cette fondation pour acheter son propre portrait grandeur nature. Nous sommes en train d'examiner la Fondation Trump pour nous assurer qu'elle se conforme aux lois relatives aux œuvres caritatives dans l'État de New York, a fait savoir Eric Schneiderman, ministre de la Justice de l'État de New York. Ce dernier avait déjà accusé l'Université Trump de fraude, des accusations rejetées par le candidat républicain.
Merci Timothée. Pas de grâce présidentielle pour Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA qui vit aujourd'hui en Russie. Il doit être jugé. Cette position a été réaffirmée hier par la Maison-Blanche à la suite des appels lancés par plusieurs associations de défense des libertés au président Barack Obama. Au Brésil, le parquet a demandé à un juge d'inculper l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva pour corruption, accusant cette icône de la gauche d'avoir été le chef suprême du réseau de malversation au sein du groupe public pétrolier Petrobras. Malgré les accusations portées contre lui et contre le Parti des travailleurs qu'il a créé, l'ancien chef d'État le plus populaire du pays de 2003 à 2010 n'avait pas encore été inculpé jusqu'à présent pour corruption dans l'affaire Petrobras, mais pour tentative d'entrave à la justice. Il devrait donner une conférence de presse ce soir à São Paulo dans le sud du Brésil. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans exactement 50 minutes avec Nanit Talani. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.